de ta divine connaissance et ouvre les yeux de notre intelligence à la compréhension de ta prédication évangélique, mais aussi en nous la crainte de tes bienheureux commandements, afin que, foulant aux pieds tout désir de la chair, nous accédions à une vie selon l'Esprit, pensant et agissant en toutes choses à la seule fin de t'être agréable. Car tu es l'illumination de nos âmes et de nos corps au Christ Dieu, et nous te rendons gloire avec ton Père sans commencement et ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Interruptione drepsis, ascoltam sphincta Evangelie, pace tuturum. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Phares et Zara de Tamar. Phares engendra Hezron. Hezron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akas, Akas engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Akim, Akim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Il y a donc en tout, d'Abraham à David, 14 générations, de David à la déportation de Babylone, 14 générations, de la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Voici comment eut lieu la naissance du Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme droit, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, se proposa de la répudier en secret. Comme il formait ce dessein, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qu'elle a conçu provient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout cela se produisit pour que fût accompli cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Éveillé de son sommeil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit chez lui son épouse, et sans qu'il l'eût connue, elle enfanta son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je voudrais vous dire quelques mots sur cet évangile de Matthieu qui est celui, comme vous venez de l'entendre, de la double généalogie du Christ, fils de David, fils de Dieu. Jésus s'insère dans l'histoire de notre humanité, nous pouvons faire, nous avons, et nous venons de l'entendre, nous avons son arbre généalogique. Jésus, fils de David, il accomplit les prophéties de la première alliance. Il est le Messie promis par Dieu et annoncé par les prophètes. Fastidieuse, allez-vous me dire, cette série de noms que je viens de prononcer, que l'Église nous fait lire avant la naissance de celui qui est annoncé dans ce texte de Matthieu. Il y a 42 générations depuis Abraham, et ces 42 générations s'arrêtent à Joseph, le père de Jésus selon la loi. Joseph est l'époux selon la loi de Marie, mais c'est suffisant pour que le Christ Jésus entre dans la lignée d'Abraham, notre père, et de David. Et Jésus est aussi fils de Dieu, et dans cet évangile, nous avons 39 fois le terme « engendré ». Joseph est engendré, mais lui-même n'engendre pas le Christ. Et l'évangéliste Matthieu dit bien « Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ ». Et voilà qu'ici tout bascule. L'histoire des engendrements humains prend une nouvelle dimension. Marie est enceinte par la vertu du Saint-Esprit et non par l'intervention d'un homme. L'archange Gabriel lui dit « Viens, voici que tu concevras et enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, » Le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, c'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Le Seigneur lui donne le trône de David, son père. L'enfant qui doit naître sera appelé Fils de Dieu. Voilà la double généalogie de Jésus. Fils de David par Joseph et Fils de Dieu, l'Emmanuel qui a été annoncé par Isaïe au chapitre 7, verset 14. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Merveille des merveilles que nous allons fêter ensemble et avec tous nos frères chrétiens dans quelques jours à Noël. Et nous, nous sommes de cette généalogie des fils de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes, fruits de l'Annonciation, de l'Incarnation, car nous accueillons dans nos cœurs, comme Marie l'a accueilli dans ses entrailles, le Verbe de Dieu. Alors, Marie était pleine de foi et d'humilité au moment de l'Annonciation. Est-ce que nous, nous sommes comme elle? L'Épître de ce jour nous donne l'exemple de nos pères dans la foi, de tous ceux qui, à la suite d'Abraham, ont attendu la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et il est une phrase dans l'Épître aux Hébreux, car il s'agit de l'Épître aux Hébreux, au 11e chapitre. Il est une phrase que je voudrais souligner. Il s'agit de Moïse qui quitte l'Égypte et qui regarde comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte d'être l'instrument de la délivrance de son peuple. Et cette portion de phrase, vous vous en souviendrez, elle est donc dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 11. Et cette portion de phrase, c'est « Comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme ». Vous vous en souvenez de cette portion de phrase. Alors, est-ce que c'est bien notre attitude la plus profonde de notre existence? Comme s'il voyait l'invisible, comme si nous voyons l'invisible, nous tenons ferme. Chaque dimanche ici à l'Église, nous venons apprendre à voir l'invisible. L'histoire humaine que nous vivons, l'histoire, notre histoire humaine, est une histoire sainte. L'histoire de nos nations est dirigée par Dieu. Son esprit est présent au milieu des hommes et des femmes qui nous entourent. Parce que chrétiens baptisés, nous portons dans nos cœurs et dans nos corps, comme dans des vases d'argile, la Sainte Trinité. Quelle responsabilité avons-nous au milieu de ce monde? Voir l'invisible, c'est avec une foi ardente que nous allons voir l'invisible royaume qui se dessine au milieu de nous. Ici dans l'Église, c'est peut-être plus visible, mais sorti ensuite dans le monde, c'est peut-être plus dur de voir cet invisible royaume qui se dessine. L'Église nous apprend à imiter tous ceux et celles qui nous ont précédés et avec lesquels Dieu a fait l'histoire sainte dans la première alliance. Et puis aussi, depuis le Christ, tous ces hommes et ces femmes dans la seconde alliance, les saints que nous prions, que nous aimons prier, ceux qui nous entourent et qui concélèbrent avec nous, et ceux aussi de nos proches qui sont partis avant nous, qui sont endormis et qui attendent la résurrection. Alors, est-ce que nous approfondissons vraiment cette vie d'intimité à notre Dieu? Est-ce que nous insérons dans cette histoire sainte que Dieu écrit avec nous et pour nous? La vie chrétienne est exigeante. Et il nous faut nous souvenir de cette parole de saint Paul aux Philippiens. Je vous l'ai dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi, c'est Paul qui parle, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Entraînons-nous, frères et sœurs, entraînons-nous à courir ensemble. Stimulons-nous les uns les autres à courir. Ça réchauffera notre foi, au moins notre foi. Vous allez me dire, mais toi qui parles, tu connais le but? Je peux vous dire que ce n'est pas la mort ni le néant que nous avons devant nous. Le Christ a terrassé la mort par sa propre mort et par sa résurrection. Il nous a ouvert le royaume de la vie éternelle dont ici, à l'Église, dans l'Église, nous avons les prémices. Avant d'avoir part un jour à la vie du Père et du Fils et du Saint-Esprit, cette vie bienheureuse où, avec tous les saints, tous les pères dont nous venons de dire les noms, tous les saints, nous louerons le Seigneur à jamais. Thank you.